Si je ne protège pas mes frontières.
Bien sûr. Voilà.
L'immigration est très, est très importante en France. Trop importante en France.
On est entre les gens chez nous alors que nous avons 5 millions de chômeurs, alors que nous avons 8 millions de pauvres, alors que nous avons 1,2 million de foyers qui attendent un logement social. Bon sang, occupons-nous d'abord de nous.
La gauche est achetée par moi. Par contre, la main. La droite est achetée par la fenêtre, on savait déjà ça. En plus, la gauche en plus. Oh merde. Un bon discours politique par deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et si possible, que les deux soient plus près possible en deux. Françaises, Français, faire deux choses. Un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé, j'ai un bon travail. On va s'arranger.
On nous a levé presque tous les droits. Il y a du chômage. Les gouvernements, ils profitent des jeunes. C'est pas nous qui ont la parole. C'est les banquiers et les politiques. Ils font rien pour nous. Ils nous enlèvent tout.
Personne ne le sait. Pourquoi ? Parce que je pense que si on connaissait ce chiffre, on serait tellement horrifié de voir que les multinationales payent si peu d'impôts.
On les appelle les indignés. Le mouvement a débuté en Espagne. Depuis quelques jours, une cinquantaine de jeunes sont rassemblés pacifiquement place de la Comédie. Plusieurs policiers sont intervenus pour dégager le campement improvisé.
Eh bien, bonjour sur Radio Canu, la plus rebelle des radios sur 102.2 FM. Alors aujourd'hui, le Radio Canu Info va être présenté par Pierre, Raphaël et moi-même, Oriane. Mais on va aussi avoir deux invités, Julien et Nicole. Donc tout de suite, on va vous présenter le déroulement de cette émission.
Alors oui, le déroulement de cette émission, déjà bonjour à tous. Le déroulement donc de ce Canu Info, on va commencer par parler d'une bien triste nouvelle, l'évacuation de la ZAD du Testé, puisque la police a délogé tous les zadistes apparemment et a détruit toutes les cabanes construites sur la ZAD au Testé aujourd'hui. Donc Raphaël va nous en parler. Ensuite on aura un entretien avec donc nos invités qui sont là, qui sont des opposants au projet de construction de la ligne de TGV Lyon-Turin. Donc ça va nous prendre une bonne partie du journal parce qu'il y a plein de trucs à dire. Ensuite nous parlerons du nucléaire et de l'Australie, des problèmes que peuvent poser parfois l'instantanéité de l'information, notamment en revenant sur une erreur qu'a faite récemment l'agence France Presse. On parlera ensuite du projet d'électrification à 100% de l'Afrique de Jean-Louis Borloo, du projet de construction d'une mine de fluorine dans la forêt de Planoise, en Languedoc-Roussillon. On parlera ensuite du mouvement de mobilisation des universités, du Front National et d'une vidéo postée par Marine Le Pen, et on finira par un petit agenda. Mais tout de suite, on commence par la nouvelle du jour qui nous est arrivée très récemment là. Donc l'évacuation de la ZAD du Testé, Raphaël.
Oui, alors on savait déjà que ça chauffait pas mal à la ZAD ces derniers jours, en attendant la prise de décision par rapport au projet. Et aujourd'hui, alors il y a le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui a officiellement déclaré l'évacuation de la ZAD. Donc tous les zadistes ont été complètement expulsés. Il y a eu 20 individus d'interpellés, 15 gardes à vue. Pour l'évacuation, 300 gendarmes ont été mobilisés. Ils ont pénétré dans la zone à l'aide d'une pelleteuse, de gendarmes spécialistes dans l'action délicate, entre guillemets. C'est des gendarmes qui sont entraînés à contrer l'écoterrorisme. Oui, maintenant ils sont entraînés à ça. Et donc certains zadistes ont évidemment résisté et risquent du coup d'être poursuivis. À 17h, alors l'évacuation générale a été ordonnée à 17h, à 16h, pardon, et à 17h, la ZAD a été cassée au moyen des trois camions Ben et d'un bulldozer. Plus de cabane, plus d'habitat, rien du tout. Le conseil général du Tarn, il a choisi d'abandonner le projet initial du barrage prévu à Sivens et a opté pour un projet réduit soi-disant. Parmi ces projets, alors, il y avait eu deux solutions de proposer. La première, ce serait la réduction du barrage qui épargnerait 7 hectares de zone humide, soit à peu près de la moitié de la surface visée initialement. Et l'autre proposition serait un enchaînement de plusieurs ouvrages d'éviter la construction d'un barrage sur la rivière. Alors c'est bien triste ce qui s'est passé aujourd'hui et on en aura plus de nouvelles bientôt.
Ouais, mais en tout cas j'espère que la ZAD va réapparaître parce que ces projets alternatifs, on ne sait pas trop s'ils n'auront aucun impact sur les agriculteurs locaux et sur la population locale, donc on espère qu'une zone à défendre va vite réapparaître. On va maintenant passer à l'entretien. on va parler du projet de construction de la ligne de TGV Lyon-Turin qui fait beaucoup débat et il y a de nombreux opposants en France et en Italie, et notamment on a deux opposants au projet avec nous ce soir. Donc déjà, je vais vous demander premièrement, est-ce que vous pouvez nous résumer dans les grandes lignes, hein, qu'est-ce que le projet finalement de construction de ligne TGV Lyon-Turin?
Alors ce projet-là, bon, à minima, c'est une construction de ligne de train entre Lyon et Turin. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'était à l'origine, c'était un projet assez ancien. Il date pas d'hier, hein. On a commencé à en entendre parler dans les années 80-90. Initialement, c'était plutôt orienté au niveau du transport de voyageurs. On voit bien que le Lyon-Turin, c'est sur un axe Paris-Milan qui est assez important, avec des lignes de TGV, comme d'autres lignes en Europe en construction. Et ce projet de transport de voyageurs était pas très soutenu au début, et il se trouve qu'il y a un événement dont on se souvient tous en 99, il y a eu l'accident du tunnel du Mont-Blanc qui a redonné un peu, qui a redonné le vent en poupe à ce projet-là. À l'époque, les promoteurs ont décidé qu'il fallait un peu plus valoriser l'aspect écologique. Et donc, on a commencé à entendre parler de fret. De fret, c'est-à-dire mettre les camions qui passent dans les Alpes sur les trains. Projet en apparence écologique. Hein. On aime bien tous, on aimerait bien mettre les camions sur le train. Voilà, donc c'est un projet, une ligne de train qui avait ces deux aspects, fret et transport de voyageurs. Alors, à cette époque-là, parlant du fret, il y a eu des analyses sur le trafic de camions à supporter, à mettre sur les trains, et il y a eu surtout des prévisions pour les années à venir. Il fallait, pour démontrer l'utilité de cette ligne-là, dire que le trafic, dans un contexte de croissance économique, allait être en constante augmentation. Et donc, on allait voir un nombre de camions croissants circuler entre la France et l'Italie.
Sauf que c'est faux.
Sauf que les prévisions sont pas exactement celles qui avaient été... Enfin, la réalité correspond pas aux prévisions effectivement qui avaient été faites à l'époque. Le contexte économique étant ce qu'il a été depuis... et puis les échanges entre la France et l'Italie sont pas forcément les plus dynamiques en Europe. On n'a pas constaté cette prédiction d'augmentation massive de camions entre les deux États. Alors il y avait un autre aspect important dans ce projet, c'est-à-dire que les circulations de marchandises aujourd'hui, si on les regarde, il y a, et ce qu'on comprend assez bien, il y a un gros trafic du sud vers le nord de marchandises des grands ports de la Méditerranée vers les ports du nord. Et l'ambition des promoteurs du projet est de capter une partie du trafic qui se déplace plutôt d'est en ouest. Ils font souvent référence à un axe Lisbonne-Kiev, donc tous ces camions qu'on a pu rencontrer nous-mêmes en allant sur les routes, et qui passent par nos Alpes, et capter une partie de ce trafic-là, mais qui est quand même moins structuré que l'axe sud-nord, pour lequel, par exemple, les Suisses ont développé récemment de nouveaux tunnels.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler des impacts qu'il y aurait un tel projet sur la population et aussi sur l'écologie,
Pour comprendre l'impact, en fait, il faudrait finir cette description du projet en expliquant concrètement ce que ça implique de construire une nouvelle ligne. La volonté des promoteurs est donc avec une ligne à grande vitesse. Qui, contrairement à des tunnels existants, dont on va parler ensuite, qui démarrent à 1200 mètres, veulent ici traverser les Alpes à leur base. Donc déjà, ça implique la construction de ce qu'ils appellent un tunnel de base. De base parce qu'il passe très bas dans la montagne. Ce tunnel représentera à peu près 56 km de tunnel, mais ce n'est pas le seul dans le projet. Il y en aurait à peu près 200 km de tunnel. Et alors, dans leur jargon, on va dire, l'ambition, c'est de gommer les Alpes, de passer à travers. Qui pour eux, selon eux, serait une vitrine pour notre florissant BTP, nos entreprises de travaux publics. Voilà, donc ça c'est, une fois qu'on a compris qu'il y avait ces tunnels à construire, eh bien, on peut commencer à parler de conséquences écologiques. Donc percer la montagne, quelles conséquences ça peut avoir? Alors déjà, vous allez sortir une quantité énorme de déblais. On avait regardé que ça faisait l'équivalent de je sais pas combien de dizaines de pyramides de déblais à sortir, dont on ne sait pas trop où ils vont finir, hein, est-ce qu'ils vont être recyclés, est-ce qu'ils vont parfois, comme ça arrive sur d'autres chantiers, rester dans la vallée et encombrer des exploitations, gêner des villages alentours, etc. Bon, ensuite, vous en avez à peu près pour une dizaine d'années de travaux, ce qui est le problème, c'est-à-dire qu'on nous promet du fret, mais dans 10 ans. Et ensuite, différents problèmes dont on arrive mal à évaluer les conséquences et qui sont irréversibles, c'est par exemple la modification... irréversible, donc de tout l'écoulement, tout le drainage de l'eau dans la montagne. Les villages qui sont là, alentour, les villes, est-ce que l'accès à l'eau demain sera le même une fois qu'on aura percé le tunnel?
Et on parle aussi, déjà quand on va sur place, moi pour m'être rendu là-bas, ça dévaste déjà le paysage, enfin, c'est un parc national, c'est très joli là-bas, à Venaos, le village, donc déjà ça saccage ça. Et aussi, on parle d'uranium et d'amiante contenus dans les montagnes où on creuse le tunnel. Et donc, on sait très bien que l'uranium et l'amiante, c'est pas forcément très bon pour les gens aux alentours.
Effectivement, il y en a un peu, mais nous, on pense que, bon, évidemment, c'est pas souhaitable. Enfin, il faut se poser des questions relativement à l'amiante et aux produits qu'on pourra rencontrer pendant le creusement, mais c'est pas le point principal en fait du projet. La question centrale, c'est de savoir, sans oublier l'aspect écologique, c'est de savoir vraiment à quel besoin cela correspond. À quel besoin correspond cette ligne. Et c'est là si on parle du besoin, alors on va laisser pour l'instant de côté l'aspect des voyageurs, mais le fret, si on parle du fret, eh ben, on a un gros hic là, c'est que nous, qu'est-ce qu'on propose, c'est, oui, de faire du fret, mais de faire du fret sur une ligne qui existe, une ligne existante. Peut-être je vais laisser Nicole décrire la ligne existante.
Donc effectivement, il y a une ligne ferroviaire qui existe, qui est utilisée à moins de 20% de sa capacité. Et ça, c'est un choix politique, parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile pour les acteurs économiques d'arriver à mettre des marchandises sur ce train. En fait, on a du mal à trouver le site correspondant. Il faut signer des contrats qui demandent une semaine. On peut pas du jour au lendemain comme ça arriver avec son camion en disant voilà, moi je veux le mettre sur le train et passer en Italie. Ce qui est complètement différent quand on regarde ce qui se passe à travers les Alpes suisses et autrichiennes, où là un camion arrive et on lui dit, enfin il a téléphoné éventuellement la veille pour dire je veux aller sur le train qui va partir à telle heure, et on lui dit oui c'est ok, pas de problème, et puis même vous arrivez, et puis si jamais il y a de la place sur un train un petit peu plus tôt, vous pourrez. Donc là en France on n'est absolument pas dans cette situation là. Donc voilà pourquoi cette ligne est complètement sous-utilisée, alors qu'elle a été rénovée et mise au gabarit européen, donc elle peut charger les camions qui circulent actuellement sur les autoroutes. En 2011, si je me trompe pas, on a dépensé 1 milliard d'euros pour la rénover, et elle est tout à fait opérationnelle et complètement sous-utilisée. Et voilà. Bon, alors il y aurait des aménagements à apporter à cette ligne quand même, hein, parce que bon, elle est sous-utilisée d'abord parce qu'il n'y a pas de volonté de l'utiliser. Et quels sont les aménagements qu'il faudrait y apporter? Bah, notamment sur le matériel roulant, pas tellement sur la voie, parce que la voie est opérationnelle, mais il faudrait revoir les wagons, l'accrochage des wagons qui actuellement se fait de façon manuelle. Enfin, il y a de nombreux moyens qui sont utilisés par les Autrichiens et les Suisses pour rendre le chargement des camions beaucoup plus rapide et efficace. Et là, ce choix n'a pas été fait du tout en France. Donc, on a une voie qui ne sert pas à grand chose, et les camions continuent à traverser les vallées. Et il faut savoir que cette ligne, si elle était utilisée dans toute sa capacité, elle pourrait transporter en Italie tout le fret qui passe actuellement par le tunnel du Mont-Blanc et le tunnel du Mont-Cenis. Voilà. Chose qui paraît assez incroyable. C'est pas du tout le discours qu'on entend de la part des promoteurs du projet, qui disent que de toute façon actuellement on peut rien faire, il faut absolument creuser un nouveau tunnel. Et autre chose qui a été une décision qui a été prise justement, qui va complètement à l'encontre de l'utilisation de la ligne existante, c'est que il y avait un tunnel de sécurité pour doubler le tunnel autoroutier la voie pour les camions du Mont-Cenis. Il y avait une galerie de sécurité qui a été aménagée pour en faire maintenant un tunnel à double sens. Donc en fait, au lieu de favoriser l'utilisation de la ligne ferroviaire et le fret ferroviaire, on favorise le passage des camions entre l'Italie et la France.
D'accord. Donc si je comprends bien, c'est 26 milliards d'euros ce projet qui seront dépensés inutilement finalement. C'est ce qu'on comprend. Si jamais la ligne est déjà, enfin le peu d'investissement qu'il y aurait à faire, ce serait donc pour les roulements, vous avez dit, donc ce serait peut-être pas grand chose au niveau.
Non, c'est pas grand chose.
Je sais pas combien ça représente financièrement, mais.
Non, ça n'a pas été évalué, mais c'est évidemment beaucoup moins cher que de creuser un nouveau tunnel.
Du coup, la question qui se pose, ça paraît vraiment absurde qu'il continue à faire la promotion de ce projet, à vouloir le construire absolument. Alors qu'il sert à rien.
Leurs arguments, c'est que c'est des arguments écologiques. Hein, ils utilisent des arguments, mais qui peuvent tout à fait être utilisés pour la ligne existante, c'est-à-dire qu'on met les camions sur les trains, donc ça, personne n'est contre, bien évidemment. Le développement économique, les échanges entre la France et l'Italie, alors que là, pour le moment, franchement, la ligne ferroviaire existante suffit. Et autre chose aussi, quand ce projet a été pensé, initié au départ, enfin quand on a commencé à l'étudier, il était bien dit qu'on ne le mènerait à bien que si la ligne existante était saturée. Donc on voit bien à quel point il y a tromperie, hein, puisque actuellement la ligne est utilisée à 17% de sa capacité et que les États français et italiens ont signé le 24 février un accord disant qu'ils allaient lancer les travaux, et le 25 février ils ont fait une demande de financement à l'Europe.
Et peut-être Maintenant, on peut peut-être parler de l'organisation. Enfin, comment s'organise le mouvement d'opposition Parce qu'en Italie, on en entend beaucoup parler. D'ailleurs, on en entend souvent parler tristement, je dois dire, avec la répression qu'il y a sur les manifestants. Je rappelle, d'ailleurs, en Italie, je crois que c'est 400 personnes qui sont poursuivies pour terrorisme, juste parce qu'ils manifestent ou qu'ils saccagent le chantier de creusement du tunnel. Et donc, du coup, l'opposition en France, comment elle se construit, comment elle se structure?
Alors, l'opposition en France, effectivement, la situation est complètement différente parce que la façon d'aborder le chantier, d'aborder les travaux en Italie et en France sont complètement différents. En Italie, il n'y a pas de déclaration d'utilité publique. Donc, en fait, à partir du moment où une décision comme ça a été prise, on voit arriver sur les lieux du chantier, on voit arriver les camions et le chantier démarre. Bon, d'où et ça déclenche bien évidemment une réaction violente des populations locales et en Italie en plus. Bon, c'est quelque chose qui s'est vraiment généralisé parce que quand il y a une manifestation dans le Val de Cise, toute l'Italie arrive, hein, avec les enfants, les familles entières. Enfin, c'est vraiment tout le monde. Enfin, on arrête de travailler, on se déplace et on va dire qu'on est contre ce projet. En France, c'est différent parce que il y a un petit habillage démocratique puisqu'il y a cette fameuse déclaration d'utilité publique. Donc, les enquêteurs viennent. Alors, bon, après, là, il y a le problème des conflits d'intérêts avec les enquêteurs. Mais bon, ça, c'est un autre problème. On pourrait en reparler, mais il faudrait beaucoup plus de temps. Mais bon, les enquêteurs interrogent les habitants de la vallée. Et à ce moment-là, il y a une petite négociation, mais qui finalement ne porte pas du tout sur l'intérêt général. Alors qu'en Italie, les gens se posent la question, ce tunnel, on n'en veut pas pour telle et telle raison. Et ils parlent du fond. Enfin, tous les Italiens qui se déplacent dans le Val de Suse, le débat, il porte sur le fond. Alors qu'en France, dans le cas de la déclaration d'utilité publique, on parle de petits aménagements. Bon, on interroge les habitants des communes qui sont sur le tracé et les gens disent, bah oui, nous, on aimerait bien une protection contre le bruit, on aimerait être sûr que les déblais ne resteront pas là, on aimerait être sûr qu'on va garder nos ressources en eau. Bon, donc il y a un espèce d'apaisement au départ qui fait que l'opposition est beaucoup moins violente qu'elle n'a été en Italie. Mais l'opposition est en train vraiment de se structurer. Donc il y a de nombreuses associations environnementales dans la vallée de la Maurienne qui appellent d'ailleurs demain à une chaîne humaine à Saint-Michel-de-Maurienne entre 10 et 17 heures. Donc on appelle tous les auditeurs et auditrices qui sont intéressés par ce sujet et qui comprennent la position des opposants à se joindre à cette chaîne. Et donc les associations environnementales se sont regroupées pour s'opposer à ce projet. Et il y a une coordination des opposants au Lyon-Turin qui est plutôt, je dirais, basée à Chambéry, avec un personnage emblématique, enfin un opposant qui commence à être très connu, qui est Daniel Ibanez, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Trafic en tout genre, où il explique effectivement toute la genèse du projet depuis la déclaration d'utilité publique, avec les arguments des promoteurs, les arguments des opposants, et c'est un bouquin qui se lit très facilement et qui explique bien tous les aspects du problème. Il y a des aspects très techniques, mais c'est quand même très facile à lire. Et ça explique bien tous les aspects.
Et quelles actions?
Alors les actions. Alors indépendamment de ces deux coordinations, il y a aussi. Alors je refais le lien un petit peu avec l'annonce du journal de ce soir, c'est que il y a aussi une convergence qui est en train de se créer entre les différents opposants aux grands projets inutiles et imposés en France. Donc Notre-Dame-des-Landes, Sivens, les Chambarans, Bure, le chantier Terre, et tous les groupes d'opposants sont en train de commencer à s'organiser pour réclamer une vraie démocratie par rapport à ces projets. Qu'on entende les mouvements citoyens, parce que là, pour le moment, c'est un petit peu, ils ont vraiment beaucoup de mal, parce que contrairement à ce qu'avait déclaré le président Hollande en janvier, l'écoute des mouvements citoyens a vraiment beaucoup de mal à se mettre en place. Donc là, ils sont en train d'essayer d'organiser la résistance. Ici, localement, il y a aussi d'ailleurs une émanation de cette convergence contre les grands projets qui regroupe les opposants à l'OL Land, à l'autoroute A45, à Chambaran, donc au Lyon-Turin. Donc, en fait, tous ces mouvements sont en train de s'organiser pour essayer de donner une réponse structurée et puis montrer comment tous ces projets ont des points communs en fait. Et si un des mouvements a travaillé sur un sujet, par exemple, comment est-ce qu'on fait un recours devant au Conseil d'État ? Quels sont les experts, par exemple, en hydrologie qui peuvent donner un coup de main pour expliquer comment ces projets vont tarir les ressources en eau ? L'étude des zones humides. Tous ces différents aspects sont communs à tous ces... tous ces mouvements d'opposition et ça c'est vraiment en train de se structurer à travers le territoire.
D'accord. Et je viens de me rappeler de quelque chose là. Ce qui va se passer, c'est que là, cette année, normalement, les travaux vont réellement commencer en France, parce que pour l'instant, c'est plutôt du côté italien.
Début.
Mais là, si j'ai bien compris, c'est début 2015, c'est dans quelle ville ? Saint-Martin ? Non ?
Début 2016, en fait. Le financement européen a été demandé le 25 février, donc. Et ce qui a été déclaré par le gouvernement, c'est que les travaux allaient commencer début 2016.
Et donc, du coup, vous allez vous organiser, vous allez vous opposer ?
Oui.
Et est-ce qu'on peut craindre qu'il va y avoir une répression, comme il y a eu en Italie, et faire passer pour terrorisme, comme ça se passe aux États-Unis et dans plus en plus de pays dans le monde, faire passer pour terrorisme des gens qui veulent défendre juste l'environnement et leur village.
Vous faites peut-être référence à la personnalité d'Eri De Luca qui a pris position en Italie contre le projet et qui effectivement a dit que il est accusé de faire l'apologie du sabotage, d'être un terroriste. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que les opposants, en fait, ils s'opposent à ces projets avec des pinces pour casser des grillages, pour couper des grillages. Donc parler de terrorisme dans ces cas-là, c'est peut-être un petit peu exagéré. Donc l'opposition est en train de se structurer là, effectivement. Là, il y a déjà eu des manifestations, donc des manifestations. Enfin, les opposants français vont en Italie quand il y a une manifestation dans le Val de Suse. Les opposants italiens viennent en France quand il y a des manifestations. Donc, il y a une coordination qui se fait au niveau de tous les GP2I qui sont sur le territoire français, mais aussi quelque chose qui se structure à travers les Alpes, entre l'opposition en Italie et l'opposition en France.
Je rappelle, un GP2I, gros projet inutile
à imposer. Oui. C'est notre jargon.
Ma question, en fait, c'était, bon, je ne sais pas si vous pouvez vraiment répondre à ça, mais est-ce qu'on peut craindre qu'en France, il fasse pareil qu'en Italie et dire qu'on est terroriste juste parce qu'on coupe du grillage ou parce qu'on vient occuper une zone ?
Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes et à Sivens. Je pense que la réponse, on l'a déjà.
Ouais, malheureusement, oui. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense que ça nous a beaucoup éclairci, nos auditeurs aussi, sur le sujet.
Merci à vous de nous avoir donné la parole.
Merci. Voilà. On continue le Canu Info de ce soir. On va notamment parler de nucléaire et de l'Australie, puisque l'Australie va se mettre au nucléaire. Elle va construire des centrales pour moins polluer, car il faut savoir que l'Australie est le premier pays dit développé dans le monde à émettre le plus de gaz à effet de serre par habitant. En effet, il utilise principalement du charbon pour produire son électricité, et le charbon, c'est un mode de production très polluant. De plus, le pays est obligé finalement de réduire ses émissions, car dans le cadre de la lutte internationale contre le réchauffement climatique, le gouvernement australien doit réduire de 5% d'ici 2020 ses émissions de gaz à effet de serre. Et il devra d'ailleurs annoncer ses objectifs et la manière dont il va procéder lors de la prochaine conférence sur le climat qui aura lieu à Paris cette année. Et c'est donc pour cela que le Premier ministre australien, Tony Abbott, a déclaré décembre dernier que si le pays devait réduire considérablement ses émissions, la meilleure option serait le nucléaire. Finalement, le gouvernement australien n'est pas opposé au nucléaire, comme on peut le voir avec ses déclarations. C'est juste qu'il a des réserves énormes de gaz et de charbon qui lui permettent de produire de l'électricité à très bas prix. Donc, on pourrait penser que c'est un pays de plus, en construisant ces centrales, ce serait un pays de plus qui ne se soucierait pas des dangers de la radioactivité sur les populations. puisqu'il est prêt à construire des centrales. On pourrait penser ça, sauf que l'Australie... comment dire ça ? Sauf que l'Australie ne se préoccupe déjà pas des problèmes, des dangers de radioactivité, excusez-moi. Il n'y a pas eu besoin d'attendre la volonté du gouvernement australien de construire des centrales, car en effet, l'Australie a déjà de grosses réserves d'uranium. Il a d'énormes réserves en uranium, encore plus que de réserves en charbon et en gaz. C'est le pays qui possède le plus d'uranium au monde. Il a à lui seul 31% de toutes les réserves de la planète en uranium. Donc l'uranium, je rappelle que c'est la ressource qui permet au... qui permet la combustion des réacteurs nucléaires. Et donc cet uranium, l'Australie, il l'exporte en Europe, et notamment en France. Il investit des milliards d'euros pour l'installation de mines d'uranium géantes en plein désert australien. Et c'est notamment Areva, la multinationale française, qui gère l'exploration. Elle possède 120 licences en Australie. Et le gouvernement australien est très sympathique avec Areva, puisqu'il lui fournit... de l'eau à volonté, de l'essence détaxée ou encore des infrastructures routières et ne demande aucun retour sur les profits de la compagnie, considérant les récoltes de l'exportation d'uranium amplement suffisantes. Et ce qui est drôle, enfin drôle je sais pas, c'est qu'une fois que l'uranium est consommé, donc en Europe, il revient en Australie, donc les déchets nucléaires reviennent en Australie pour être enfouis, et ce toujours dans le désert. Où a priori il n'y a personne, du moins personne d'important aux yeux du gouvernement, si ce n'est des communautés aborigènes, les dernières communautés aborigènes qui existent en Australie, qui ont survécu à la colonisation et qui essayent de conserver leur mode de vie traditionnel et qui vivent dans le désert donc. Et donc ces communautés aborigènes, eh bien il se trouve qu'elles contractent des maladies dues à la radioactivité. Des maladies graves, et même ces aborigènes en meurent de ces maladies. Donc voilà, donc on va comme je disais, le gouvernement australien n'a pas besoin de construire des centrales pour irradier sa population, puisqu'il l'irradie déjà avec les centres d'enfouissement et les mines d'uranium. Donc avec cet exemple, on voit bien à quel prix des populations doivent payer la promotion du nucléaire par les gouvernements. Comme moyen de lutte contre le réchauffement climatique. Et pour faire un lien avec l'actualité nationale récente, si on s'indigne de ce qui se passe en Australie, on ne peut que soutenir les personnes qui vont aller à Bure, dans la mesure où voilà, on veut construire un centre d'enfouissement à Bure, donc on comprend bien les dangers d'irradiation qu'il y a avec les centres d'enfouissement. Donc voilà, on ne peut que soutenir et même peut-être se joindre aux zadistes, aux futurs zadistes de Bure, dans la Meuse. Et donc pour vous renseigner sur cette nouvelle ZAD qui va se tenir à Bure, vous pouvez aller à l'atelier des canulars, jeudi 19 mars. Il y a un repas de soutien à prix libre. L'argent qui sera récolté servira au financement de la future ZAD. Et donc l'atelier des canulars... C'est au 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement de Lyon. Voilà. On va à présent parler des problèmes de la rapidité de l'information. C'est Oriane qui va nous parler de ça, en prenant l'exemple d'une erreur qu'a faite récemment l'agence France Presse.
Oui, alors c'est vrai qu'en début de semaine, l'une des trois plus grandes agences de presse au monde, donc l'agence France Presse, a fait du bruit. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler. Vous avez dû sûrement entendre parler de l'erreur effectuée par l'AFP à propos de l'annonce erronée de la mort de Martin Bouygues, donc qui, je rappelle, est PDG du groupe Bouygues. Donc je voulais revenir sur cette erreur qui a fait débat cette semaine. Donc d'abord, il faut savoir que l'agence France Presse est l'une des trois agences du monde à fournir la base de l'information à tous les journaux traditionnels que nous trouvons en kiosque. Donc c'est un empire de la presse depuis 1944 qui prime par sa fiabilité et sa neutralité dans la diffusion d'informations. Donc l'AFP est présente dans 165 pays et produit plus de 5000 dépêches ainsi que 2000 photos par jour. Et les diffuse ensuite aux journaux traditionnels qui retraitent ou non d'ailleurs l'information. Cette agence mondiale d'information a subi actuellement une grosse crise. Donc c'est vrai que la diffusion de cette fausse information a soulevé des questions, notamment de vérification d'informations, car l'agence étant la base de l'information, elle aurait dû recouper plusieurs fois ses sources pour ne pas commettre une telle erreur qui en plus aurait pu facilement être vérifiée en appelant par exemple TF1, filiale du groupe Bouygues. Enfin bref, cela nous amène aussi à nous interroger sur la cause de cette erreur. Un journaliste a d'abord été montré du doigt, étant à la source de ce quiproquo lors d'un appel téléphonique. Cependant, d'autres facteurs autres que l'erreur humaine peuvent être remis en cause. Un communiqué paru 3 jours après les faits du CNJ-CGT, donc le syndicat national des journalistes, pointe la responsabilité sur Emmanuel Hoog, donc c'est le patron de l'AFP. Donc ce communiqué reproche à cet homme d'être à la base de la désorganisation de la rédaction, faisant pression sur les journalistes pour plus de rapidité afin d'accroître la rentabilité de l'agence. Donc le communiqué a aussi dénoncé cet homme comme étant responsable de la dégradation accélérée des conditions de travail, de l'augmentation insoutenable de la charge de travail et du stress des équipes. Cet homme a même lancé il y a quelques semaines « Ne soyez pas prisonniers de vos sources ». Pourtant, l'information en règle générale doit systématiquement être vérifiée, recoupée, analysée puis décortiquée. Cependant, cela se heurte à la concurrence entre les différents médias, mais aussi entre les différents supports. Donc en effet, l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux a accéléré la cadence, ne donnant le choix aux journalistes que d'accélérer la leur. Mais cependant, un journaliste ne peut faire paraître un article ou un reportage à la même vitesse qu'un tweet ou qu'une vidéo prise par un amateur déjà sur place. Donc il y a l'obligation de vérifier ces informations, puis d'en faire une analyse. La presse écrite en France, subissant déjà la crise, se voit entrer en concurrence avec les réseaux sociaux. Mais comment arrive-t-on à comparer deux choses aussi incomparables ? Donc, les journaux sont déjà en concurrence perpétuelle de course à l'information afin d'être les plus réactifs et donc les plus rentables. Cependant, lorsque les réseaux sociaux entrent dans la course, celle-ci devient complètement déloyale. Donc, pourtant, de nombreuses personnes font primer la rapidité sur la fiabilité. Internet et les réseaux sociaux ont développé le fait que beaucoup de personnes mettent l'information trouvée sur la toile sur le même pied d'égalité. De fait, un article écrit par un journaliste du Monde diplomatique va se retrouver sur Internet au même titre qu'un autre. C'est donc au lecteur de faire la différence entre journaliste et amateur et de prendre en compte la provenance d'un article. Internet n'a pas que des défauts et son apparition a permis de confronter plusieurs opinions et points de vue sur un même sujet. Il permet d'avoir accès à un nombre inéluctable d'informations, mais encore faut-il savoir correctement l'utiliser. Donc voilà, je laisse la place à Raphaël qui va nous parler du projet de Jean-Louis Barlot.
Juste avant, si on pouvait redonner la parole à nos invités pour qu'après ils puissent s'en aller s'ils en ont envie. Vous vouliez rajouter quelque chose
Oui, on voulait être sûr de ne pas oublier avant de partir, de faire bien le résumé de l'intervention, notamment de rappeler donc le bouquin de Daniel Ibanez, Trafic en tout genre, aux éditions Timbuktu.
Alors, édition Timbuktu, ça s'écrit T-I-M, plus loin, B-U-C-T-U, édition. Donc, Trafic en tout genre, qui explique bien toute la genèse et le développement de ce projet, et l'opposition à ce projet, et tous les recours juridiques qui ont été lancés contre les plaintes qui ont été déposées contre ce projet, y compris au niveau européen, au niveau de l'Office européen de lutte contre la fraude, puisqu'il est entaché quand même de problèmes de contrats avec des entreprises qui ont des liens avec la mafia. Bon. Donc, ce que je voulais vous donner pour avoir des informations plus précises, plus poussées, si vous le souhaitez, parce qu'on est loin d'avoir tout abordé ce soir, c'est le nom du site. Le site s'appelle lyonturin.eu. Lyon-Turin tout attaché, sans point sans tiré. Donc le titre du livre de Daniel Ibanez, on l'a déjà donné. Et puis, je ne manquerai pas de rappeler la chaîne humaine de demain, donc à Saint-Michel-de-Maurienne, de 10 à 17 heures. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Merci. Puis bonne soirée à vous.
Bonne soirée à vous aussi.
Et donc maintenant, on laisse la place, comme je disais, à Raphaël, qui va nous parler du projet de Jean-Louis Borloo d'électrifier l'Afrique à 100%.
Oui, alors j'ai découvert que Jean-Louis Borloo, officialisé mardi dernier, la préparation d'un projet donc à son initiative, qui n'a pas encore de nom officiel, mais qui serait voué à électrifier l'Afrique à 100%. Alors il l'a présenté comme une sorte de plan Marshall devant un parterre de chefs d'entreprise et de diplomates africains. Donc c'est un projet que j'ai trouvé quand même assez intriguant. Il reste assez vague pour l'instant, on n'a pas encore assez d'informations, mais je pense que c'est un projet qui est quand même pas à perdre de vue parce que il soulève quand même des enjeux à la fois sur l'Europe et sur l'Afrique. Donc je vais quand même essayer de vous le résumer brièvement et de soulever quelques enjeux. Alors déjà, Jean-Louis Borloo, en présentant ce projet, il a soulevé tout de suite l'aspect économique pour l'Europe. Il a même dit le relais de croissance pour l'Europe se trouve en Afrique. C'est vital pour notre croissance, pour notre stabilité, car l'électricité est à la base de tout le reste. Donc l'agriculture, l'accès à l'eau, la santé, l'économie. Alors selon lui, 200 milliards d'euros seraient nécessaires sur une dizaine d'années à réunir pour fonder ce projet. Donc il compte sur 50 milliards d'aides internationales, soit environ 4 milliards par an. Et pour le reste, des investisseurs privés suivront, d'après lui. Et évidemment, il n'a pas donné plus de détails à propos de ces investisseurs privés. Alors il a aussi ajouté que ces subventions, par effet de levier ou grâce à des financements classiques, permettront de réunir 250 milliards de dollars, sans donner plus de précisions non plus. Alors effet de levier magique ou non, on n'en sait rien encore. Mais son idée serait de créer une agence spécialisée dédiée à cette question. Cette agence qui devrait voir le jour d'ici fin juin, avant d'être opérationnelle avant le sommet de Paris en décembre, où évidemment la diplomatie française est très impliquée. Alors, donc il a soulevé cet aspect économique pour l'Europe. Alors apparemment, je me souviens que c'était, il estime l'augmentation de la croissance de l'Europe de 3%. Ensuite, il soulève aussi l'aspect sécuritaire et migratoire. Selon lui, moins de misère dans les pays africains signifie moins de migration en Europe, donc aussi éviter une guerre selon lui, et c'est surtout bien pour l'économie. Faut aussi préciser que c'est pas non plus le premier à présenter un projet comme tel. Il y a déjà eu les fonds verts des Nations Unies qui l'ont fait, Obama avec un projet Power Africa, mais alors tout ça sont des projets qui restent en cours, faut le préciser. Et du coup, pour finir, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais déjà, naturellement, on pourrait déjà se poser la question de la souveraineté des États dans tout ça. Jean-Louis Borloo a affirmé que s'il y a du soutien des États, ce n'est pas un problème, mais on ne connaît pas encore vraiment les mises en place de ce projet. Et surtout, quelles seraient les conséquences d'investissement d'acteurs privés dans ce projet, car on connaît assez de situations comme ça pour savoir à peu près les conséquences que ça engendrerait. Voilà, donc j'en ai fini avec ce projet de Jean-Louis Borloo qui, je pense, on ne doit pas perdre de vue. Et du coup, on va continuer avec Oriane qui va nous parler du projet d'exploitation de fluorine dans le Languedoc-Roussillon.
Oui, alors c'est vrai que j'ai retenu qu'il y avait un projet de mine de fluorine qui menace la forêt de la Planoise à Antully. C'est la société Garoc-Chaillac, basée en Languedoc-Roussillon, qui envisage d'ouvrir une mine à ciel ouvert de fluorine, donc dans la forêt de Planoise. L'entreprise a effectué en décembre et en janvier dernier une série de forages pour analyser les sous-sols de la forêt. Le but de ces forages étant d'ouvrir une carrière de fluorine sur un site qui a déjà été exploité dans le même but dans les années 1970. Donc la fluorite, ça désigne la roche contenant la fluorine, le principal minerai du fluor. Le projet d'exploitation actuel concerne une zone de plus de 40 hectares, alors qu'on l'on parlait de 24 hectares il y a à peine 2 ans. Enfin, cette zone d'extraction est située de plus à 250 mètres environ de l'étang du Martinet, qui est entre autres une réserve d'eau potable de nombreux foyers. Les boues résiduelles, après être passées par l'usine de traitement, seront remis dans le trou, ce qui engendrera un risque de contamination des eaux à cause des produits chimiques utilisés pour extraire la fluorine. Certains minerais, jusqu'alors enfouis, vont être aussi ramenés en surface, augmentant les risques de pollution. L'idée, c'est donc de creuser un trou de 15 à 20 mètres de profondeur, afin d'en sortir le minerai. Une fois la fluorine extraite de la roche, les gravats restants, entre temps passés par un traitement chimique, seront utilisés pour reboucher le trou initialement créé. Et des arbres seront plantés, ni vus ni connus, au-dessus du trou. Donc, faut rappeler que la fluorine est l'un des 14 minerais considérés comme stratégiques au plan international. Ce minerai est utilisé généralement dans la métallurgie, la microscopie ou l'optique. Il est donc considéré comme stratégique par la France, car aucune mine de ce type n'est encore en usage dans notre pays, mais aussi par l'Europe, car son utilisation est en plein essor. Donc il est vrai que nous dépendons actuellement de l'importation chinoise. Autant d'éléments qui vont faire bouillir les industriels, puisque le Morvan et ses alentours est une zone riche en fluorine. Parallèlement à la mine, une usine de traitement sera construite à 1,5 km de cette zone d'extraction. L'acheminement par le biais de camions se fera donc au milieu de la forêt. Donc, pour précision, la forêt se compose de parcelles de feuillus, de pins, ainsi que des terres agricoles. Elle héberge aussi plusieurs espèces protégées, selon un inventaire réalisé par la Société d'Histoire Naturelle l'OTAN. L'implantation de la mine va pourtant nécessiter la coupe rase de toute cette forêt et de toutes ces terres agricoles. Donc, les organisations locales ainsi que les habitants du coin commencent à s'organiser afin d'informer sur ce qui est en train de se passer. Les écologistes font aussi part de leur vigilance, inquiets des conséquences éventuelles de ce projet sur les ressources en eau potable. Donc voilà, à suivre pour de nouvelles aventures. Enfin voilà, je laisse la place à Pierrot qui va parler du mouvement de mobilisation des universités maintenant.
Je vais parler de ça, ouais. Mais avant, je voulais dire que c'était quand même triste, ça fait quand même beaucoup de projets là qu'on expose où on détruit la nature, ça fait quand même assez peur, quoi. On se demande jusqu'à quel point on va aller, quoi. Peut-être ralentir un petit peu ça, quoi. Mais avec nos politiques, on massacre aussi les universités, et ça, nous le savons. Il y a eu hier un mouvement de contestation des universités dans toute la France, et notamment à Lyon. C'était une journée de mobilisation nationale, donc. À Lyon, la manifestation a réuni 200 personnes devant les bâtiments de l'université Lyon 2. Les manifestants ont d'abord exposé leurs revendications à la présidence, puis un cortège est parti en direction du rectorat, où s'est tenu un deuxième rassemblement. Alors les professeurs, personnels et étudiants des universités se plaignent toujours de la même chose, hein. Ils déplorent une politique d'austérité qui règne en maître dans de nombreux établissements universitaires aujourd'hui. Que ce soit à Lyon, à Paris, mais aussi dans d'autres grandes villes étudiantes de France, des millions d'euros manquent pour que les universités fonctionnent correctement. Je rappelle que, par exemple, à Lyon 2, de nombreux profs vacataires ne sont pas payés et n'ont pas de contrat de travail depuis septembre. C'est seulement après une grève de 5 semaines, la rétention des notes et face à un mouvement de contestation grandissant que la présidence de l'université a enfin cédé du terrain et a accéléré les procédures de régularisation. Cependant, il reste toujours à Lyon 2 entre 15 et 20 contrats de travail qui n'ont pas été signés. Et parmi les personnes qui ont enfin leur contrat, certains n'ont pas pour autant reçu leur paye et d'autres n'ont pas reçu la totalité, voire seulement la moitié de leur paye. Donc c'est évidemment une situation inadmissible que la présidence de Lyon 2 arrive tout de même à justifier avec toujours les mêmes arguments, aussi inadmissibles, voire plus inadmissibles que cette situation. C'est par exemple pour eux la faute des étudiants boursiers. Bah oui, parce que ils ne payent pas leur droit d'inscription. Donc pour la présidence, ils sont trop nombreux à l'université, ces étudiants boursiers. Et c'est pas bien parce qu'ils ne font pas rentrer d'argent dans les caisses de l'établissement. Je trouve que c'est des propos choquants et qui font un peu tâche quand on sait que, par exemple, le président de l'université, M. Maillot, s'octroie lui-même une prime de 26 000 euros. Voilà. Donc les revendications pour Lyon 2 restent les mêmes, que tous les personnels, sans exception, soient payés avec des contrats de travail et également que les classes de travaux dirigés soit maximum de 30 étudiants, car je le rappelle, à l'inverse du cours magistral, le cours en travaux dirigés permet un enseignement différent, permet des débats, une participation des élèves, et voilà, c'est indispensable également pour la formation des étudiants. Et plus globalement, les revendications du mouvement de mobilisation d'hier, c'est donc un accès libre et gratuit pour tous à l'enseignement supérieur public. On n'y est pas encore. Un plan ambitieux de création d'emplois de personnel titulaire pour répondre à des besoins qui sont réels, que ce soit des profs, des ingénieurs ou encore des administratifs ou des techniciens. L'abrogation de la loi LRU, la loi LRU qui est la loi relative aux responsabilités des universités, qui a été mise en place par notre très cher ancien président Nicolas Sarkozy. C'est une loi qui, entre guillemets, autonomise les universités. Et en réalité, ce que ça veut dire, c'est que les subventions allouées aux universités sont drastiquement réduites, ce qui oblige les établissements à se tourner vers des investisseurs privés, et avec tous les problèmes que cela pose en termes d'indépendance et de valeur critique de l'enseignement et de la recherche universitaire. Enfin, dernière revendication, une augmentation du financement de l'État, ce qui ne va pas sans une abrogation de la loi LRU finalement. Et donc le mouvement sera suivi tant qu'il n'y aura pas de réponse à ces revendications. En tout cas, on l'espère. Une autre petite actualité, en bref, pour continuer, sur le Front National, car on peut dire que Marine Le Pen a récemment enlevé son masque. Je m'explique. La présidente du FN a hier mis en ligne une vidéo où elle adresse un message de soutien aux fascistes qui se sont réunis à Rome le 28 février. Dans cette vidéo, elle s'excuse de ne pas avoir pu défiler aux côtés de ses amis de la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite italien, qui était également aux côtés des néo-nazis grecs du parti Aube Dorée, des néo-fascistes italiens du mouvement Casa Pound, et aussi des anti-islam allemands du mouvement Pegida. Donc toute une belle guirlande de fachos à Rome samedi dernier. Et Marine Le Pen aurait bien aimé représenter les couleurs de la France, la délégation fasciste française, mais malheureusement, elle a eu un empêchement. Je dis malheureusement car c'est bien dommage, sa présence aurait pu remettre un peu les choses au clair. Dans un contexte où le Front National masque chaque jour son discours, et ce, on le sait, hein, pour draguer l'électorat, devenir le premier parti de France, et ben voir Marine Le Pen aux côtés des membres d'Aube Dorée, bah ça nous aurait peut-être rappelé à quel point le FN et la famille Le Pen s'inscrit dans cette même mouvance et idéologie raciste, antisémite. Voilà, je rappelle que le Front National est quand même né à la base d'anciens partisans de l'Algérie française, donc Action Secrète, etc. Donc voilà, faut pas oublier ça. Et on finit cette information par une évidence. Marine Le Pen a également dénoncé dans sa vidéo l'immigration massive et le communautarisme qui l'accompagne sont des terreaux où recrutent les terroristes islamistes à l'intérieur même de nos pays. Voilà, c'était pour la petite info sur le Front National. Et on arrive déjà à la fin de ce Canu Info, mais c'est triste. Mais c'est pas encore fini quand même, il reste 10 minutes. Et justement, on va vous faire un petit agenda des choses que vous pouvez faire prochainement.
Donc alors, c'est moi qui vais vous parler des petites infos de ce week-end. Alors déjà, je vais rappeler que ce dimanche 8 mars, c'est la journée internationale de la lutte pour le droit des femmes. Et c'est aussi à Lyon le rendez-vous d'un rassemblement contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme. Donc on reste dans le sujet, Le Pen, Marine Le Pen, etc. Alors soyez nombreux, c'est rendez-vous à 14h à la place du pont de Guillotière. Ensuite, par rapport à la semaine prochaine... alors on a trouvé intéressant de parler de la conférence sur l'anarchie qui va se tenir à Lyon. C'est ce vendredi prochain, le 13 mars, qui va se tenir à la MJC Mon Plaisir à partir de 18h30. Donc le support principal de cette conférence, c'est un livre que Philippe Pelletier a publié en 2013 qui s'appelle « L'anarchisme, vent debout, idées reçues sur le mouvement libertaire ». Alors le but de cette conférence, c'est un peu d'aller au-delà de toutes les idées préconçues du mouvement et de faire connaître plus fondamentalement les conceptions politiques, philosophiques et sociales de l'anarchisme, de son histoire à ses réalisations. En effet, parce que la conception anarchique sur l'État peut parfois effrayer, mais il faut dire aussi qu'on manque cruellement d'informations à son sujet. Aucun média n'en parle, ni même l'éducation par exemple. Alors, je vous propose de ranger les préjugés, de faire place à la curiosité, à l'ouverture d'esprit et au questionnement. Le groupe lyonnais Graines d'Anar, membre de la Fédération anarchiste, vous invite à venir s'informer, discuter, débattre autour de ce sujet. Je rappelle l'adresse, c'est au 25 avenue des Frères Lumière, dans le 8e arrondissement, ce vendredi prochain 13 mars, à partir de 18h30. Alors, pour continuer, on va aussi parler d'un convoi humanitaire pour aller jusqu'en Syrie. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'association lyonnaise Free Syria Lyon. Sinon, alors brièvement, en vue de la situation d'urgence en Syrie, elle vient en aide aux populations syriennes en recueillant des dons en nature et en espèces pour envoyer en Syrie des convois humanitaires principalement. C'est une association apolitique complètement et complètement humanitaire qui, grâce à ses actions, arrive à rassembler quand même entre 80 et 120 tonnes de vivres, couvertures, vêtements, médicaments triés et autres besoins essentiels tous les 2 à 3 mois pour ensuite envoyer les convois humanitaires en Syrie. Alors, revenons-en du coup à ce week-end prochain. À l'occasion du 4e anniversaire de la révolution syrienne de 2011, l'association organise un convoi exceptionnel composé de semi-remorques et de véhicules accompagnateurs pour sillonner en fanfare les grandes avenues lyonnaises. Alors elle a besoin de soutien. Le convoi part à 14h de l'entrepôt de Vanvelin pour rejoindre la place Bellecour à 17h. Et prendra ensuite la route pour Trieste en Italie, la Turquie, puis la Syrie dans la soirée. Pour finir ensuite, on a trouvé intéressant de parler de la cinquième édition des écrans du Doc. Ça s'appelle comme ça, c'est toute une semaine qui va se dérouler du 18 au 22 mars au Toboggan, proposant 5 jours de programmation documentaire. Alors au programme de cette édition, il y a 11 films documentaires engagés et engageants, dont 2 films en avant-première. Il y a aussi pendant cette semaine de nombreux débats, un concert, des apéro-discussions, en présence de réalisateurs, de sociologues, d'enseignants, d'associations militaires, de musiciens et encore bien d'autres. Plusieurs de ces films abordent cette année le thème de la jeunesse et sa place dans notre société. Et quelle société ? Celle qui s'interroge sur le vivre ensemble, la différence, la liberté d'expression, mais également celle qui subit une économie toujours plus mondialisée et financiarisée. Alors pour toutes les personnes intéressées et curieuses, ce salon aura lieu au Toboggan. L'adresse se situe au 14 avenue Jean Massé, à Décines, dans le 69. Et je vais quand même faire un petit récapitulatif de la programmation de ces 5 jours à travers les gros thèmes. Donc, par exemple, le mercredi, il y aura regard croisé sur la société iranienne. Le jeudi, recherche d'emploi, mode d'emploi. Le vendredi, planète éco. Et samedi, être et devenir. Alors, pour plus de renseignements, vous pouvez aussi aller sur Lyon Campus Info dans la rubrique Expo. Alors, ce sera tout à propos de notre agenda du vendredi. Et puis pour finir, Zougoulougoulou.
Zougoulougoulou.
Gouloulougoulou.
Voilà, on finit là-dessus. C'était le Canu Info du vendredi avec Pierre.
Auriane.
Raphaël.
Et on vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée
à tous. À l'écoute de Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
102.2. Ouais. Et juste après, vous avez l'émission Noise Pollution avec du gros métal, c'est cool. Donc 5 minutes de bande continue, parce qu'on est un peu en avance. Et ensuite, restez à l'écoute pour Noise Pollution, prononcé par nos collègues de Radio Canu. Voilà.
Bon week-end
à vous.
Bon week-end.
C'était The Black Keys, un instant sur Radio Canu. Juste avant, on a entendu Mel, Un pied dans le vide. Et encore Lady Severine, Public Warning. Vous êtes bien sur la plus rebelle des radios et les bandes continuent.
Je veux vivre libre. été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parentales.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public ? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale.